jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme tous les jours par Perrine Suquet avec Charles Deluermoz. C'est Alexandre Cagzan qui est à la réalisation technique de cette émission, qui est une émission spéciale de l'heure du crime consacrée à l'assassinat il y a 3 mois d'un agent immobilier français sur une île touristique thaïlandaise très en vogue, très connue des touristes et même des retraités français, parce que beaucoup de retraités français vont maintenant vivre en Thaïlande. Cette île s'appelle Koh Samui et les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 décembre dernier. Laurent Delacherie, 44 ans, se rend dans un restaurant français qui s'appelle le Jardin des Envies dans la soirée, une dispute éclate entre Laurent Delacherie et trois Français présents dans ce restaurant, dont le propriétaire des lieux, et ça va très mal se terminer par des coups de feu. Et on va retrouver son corps au pied d'une chute située près d'un autre village, parce que les trois auteurs et complices de ce qui s'est passé ont décidé de maquiller leur crime en accident. Et très rapidement, la police thaïlandaise va mener une enquête. On va vous raconter tout ça en détail. Mais ce qui est important dans cette émission, pour nous, c'est de relayer l'appel à l'aide aux autorités françaises d'une des sœurs de Laurent Delacherie, Jessie, qui est avec nous en compagnie de son avocat, maître Emmanuel Molina. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jessie. Peut-être on reviendra plus longuement sur les circonstances telles que vous avez pu les reconstituer, parce que l'affaire est assez complexe et puis elle se passe très très loin, au bout du monde, où vous êtes malheureusement allé pour parce que votre frère a perdu la vie dans ce drame, et vous avez eu raison de nous faire part de tout cela sur RTL.fr. Je vous ai laissé un message. Comment est-ce que vous avez appris ce drame?
J'étais tout simplement au boulot, j'ai pris mon téléphone par hasard pour consulter un peu si j'avais des messages. Et là j'ai vu que mon père m'avait essayé de me joindre, donc aux alentours de 13h30. Donc il était 16h30 quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu qu'il m'a laissé un message vocal, donc j'ai été assez étonnée, puisqu'il sait très bien qu'à cette heure-là je suis sur mon lieu de travail. Et lorsque j'ai consulté donc ma messagerie vocale, j'ai entendu mon père pleurer en me demandant de le recontacter et que c'était très urgent. J'ai compris tout de suite qu'il était arrivé quelque chose de grave. J'ai tout de suite pensé à ma mère, loin d'imaginer que voilà.
Bien sûr, qu'il était arrivé quelque chose à votre frère.
Tout à fait. Et c'est là que j'ai appris le décès de mon frère.
Voilà, et lui-même avait été mis au courant vraisemblablement par une amie, par l'ami de votre
frère. Facebook,
hein, ouais. Et sur Facebook.
Voilà, il est tombé sur un article, et en rentrant en fait dans la conversation, puisque tout de suite il a vu un homme de 44 ans, français, à Koh Samui, donc voilà.
Ouais, bien sûr.
Et en rentrant dans la conversation, au fil du temps, il a commencé à recevoir des messages en privé, lui demandant de contacter urgemment un ami de mon frère, et il a compris quoi.
Un Français tué au cours d'une altercation avec trois autres Français, et la nature de l'appel que vous lancez aux autorités françaises, c'est pour demander que ces trois personnes soient extradées et non pas jugées en Thaïlande, et que le procès puisse avoir lieu en France. Alors, maître Emmanuel Molina et votre avocat, celui de votre famille, vous êtes avocat au barreau de Marseille, maître. Quelle est la nature de la demande que vous faites alors aux autorités?
Il s'agit d'une demande de mobilisation, et de mobilisation énergique, de mobilisation rapide.
Parce qu'il ne s'est rien passé depuis 3 mois. Les faits remontent au début du mois de décembre. Il ne s'est rien passé du côté des autorités françaises pour l'instant.
Oui, vous avez raison de souligner que les faits remontent maintenant au 7 décembre 2016. Nous sommes à la date du 10 février 2017, et force est de constater, malheureusement, que les autorités judiciaires françaises n'ont, de notre point de vue, pas véritablement pris la mesure de la gravité objective et indiscutable de ce qui s'est noué en Thaïlande, et de la nécessité corrélative, selon nous, en application des règles de droit pénal français, de solliciter et de mettre en mouvement, surtout, les mesures judiciaires nécessaires à un jugement équitable, bien évidemment, mais un véritable jugement des auteurs de ces faits. Et en effet, nous en appelons à cette mobilisation, pas seulement aujourd'hui devant vous, et je vous en remercie, mais depuis maintenant plusieurs semaines, tant auprès des autorités du parquet de Paris qui sont saisies de cette situation que du ministère des Affaires étrangères, pour qu'enfin l'appel de cette famille de victimes soit entendu et que une procédure judiciaire en France soit mise véritablement en mouvement.
Et puis il y a des accords dans ce qu'on appelle l'entraide judiciaire qui doit permettre à un pays, lorsqu'un de ses ressortissants est tué par d'autres ressortissants du même pays, même si ça se passe sur un sol étranger, la France ne peut pas évidemment être hors du jeu. Alors on reviendra évidemment sur les arguments que vous développez, ils sont nombreux. Peut-être encore un tout petit point sur l'affaire avant de revenir aux circonstances. Il y a trois personnes impliquées dans cette affaire. Je vais donner leur nom. Georges Michel, un Français de 65 ans, propriétaire d'un bar à vin dans un village d'ailleurs tout près des chutes, de la chute au pied de laquelle on a trouvé le corps donc de Laurent. Cyril Larignon, 43 ans, propriétaire du Jardin des Envies, c'est-à-dire le restaurant où cela s'est passé. Et le troisième Français, s'appelle Yves-Daniel Clément, 60 ans, et qui, dès le début d'ailleurs, niait tout en bloc. Alors, ça veut dire simplement que Georges Michel, qui est présumé l'auteur des coups de feu qui ont tué Laurent Lacherie, est actuellement en prison, en Thaïlande. Mais les deux autres, Cyril Larignon et Yves-Daniel Clément, qui étaient considérés comme des simples, j'allais dire, complices, voire même simplement accusés d'avoir transporté un cadavre, ont été condamnés à une peine d'ailleurs pas très importante. Et quelle est leur situation actuellement ?
Alors, selon nos informations, Georges Michel, puisqu'il s'agit de celui qui est présumé être l'auteur des trois coups de feu mortels qui sont à l'origine du décès de Laurent de Lacherie, est actuellement incarcéré en attente de jugement. Ce point est central, car cela signifie qu'au moment où nous parlons, et au moment où la famille de Lacherie réclame une extradition, ou la mise en place en tout cas d'un processus destiné à permettre son jugement en France, cet homme n'a pas été jugé. En Thaïlande, il n'a pas été jugé définitivement, et par conséquent, il a encore vocation à être jugé en France.
Oui, parce que dans la loi française, mais on y reviendra plus longuement tout à l'heure, on ne peut pas juger deux fois, une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits, même s'il s'agit de deux systèmes juridiques différents.
C'est une difficulté sur laquelle j'aurai peut-être l'occasion de revenir.
Il n'est pas jugé.
Il n'est pas jugé. Voilà. Et il est central,
en prison.
Absolument. S'agissant des deux autres, pour répondre à votre question, l'un est encore incarcéré à notre connaissance et purge la très dérisoire, si j'ose dire, sanction qui a été prononcée contre lui à hauteur de 3 mois d'emprisonnement. S'agissant du troisième, il a été purement et simplement remis en liberté
sous caution extrêmement
tout à fait symbolique, symbolique au regard, encore une fois, de la gravité objective des faits.
Voilà, donc il fallait vous raconter le contexte de cette affaire. On va beaucoup en parler, on va revenir sur les faits, évidemment. Nous aurons d'ailleurs dans l'émission tout à l'heure en ligne le correspondant du journal Le Monde à Bangkok, Bruno Philippe, qui a consacré dans son journal un article à cette affaire. On verra avec lui le contexte aussi, qui sont ces Français dont beaucoup ont choisi de vivre dans ce pays, qui ne sont pas toujours des gens très fréquentables, il faut bien le dire. Si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages sur cette affaire, vous pouvez évidemment nous joindre tout au long de l'émission au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par courriel sur rtl.fr. Une pause et on se retrouve dans quelques instants.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Jessie Delacherie, sœur de Laurent Delacherie, ce Français âgé de 44 ans qui était agent immobilier en Thaïlande sur une île très, très touristique et qui a été assassiné dans la nuit du 7 au 8 décembre 2016. Et son avocat, maître Emmanuel Molina, qui est avocat au barreau de Marseille, avocat donc de la famille de Laurent Delacherie. Et j'ajoute aussi, on en parlera tout à l'heure, que maître Molina est membre du barreau pénal international et qu'il dirige également un organisme, l'assistance défense pénale français de l'étranger. Donc évidemment, il est l'homme de la situation et il a non seulement cette action envers les autorités françaises pour ce cas particulier, mais il a aussi l'expérience d'autres affaires qui se sont déroulées de Français, donc étant mêlés à des affaires criminelles à l'étranger, et parfois donc soit victime, soit auteur d'agressions sur des Français. Alors, Jessie Delacherie, on va... c'est pas facile pour vous, mais il faut qu'on comprenne bien, parce qu'il y a aussi... On est à l'ère d'Internet, de Facebook, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui ont couru sur, d'ailleurs, tous les acteurs de cette affaire, mais dont votre frère. Alors, vous êtes la mieux placée pour nous dire qui était Laurent, qu'est-ce qu'il faisait en Thaïlande. Il était sur place depuis 2014, je crois.
Tout à fait, oui, il est arrivé en juillet 2014. Voilà, il avait envie de changer de vie.
Et de métier,
tout à fait. Donc, il avait créé sa société en France pendant 10 ans. Avec la crise, malheureusement, il a perdu sa société. Ça lui a mis un gros coup, je pense. Il a mal vécu. Et je pense que voilà, il est parti de là, ce désir de construire ailleurs autre chose, une nouvelle vie, de tourner une page et de repartir à zéro.
Et donc, il est allé en Thaïlande parce qu'il était allé en vacances ou comment, pourquoi a-t-il choisi la Thaïlande, vous le savez?
Je pense que c'est des amis qui ont dû lui parler, en fait, qui avaient déjà l'expérience d'avoir été sur place.
Ouais.
Et donc, il s'est rendu là-bas et vraiment, sans rien, il est parti du jour au lendemain et il a tout reconstruit là-bas.
Voilà. Alors, ce qu'il a reconstruit, c'est une agence immobilière d'abord sur Internet, mais il a eu assez rapidement, d'après ce que j'ai compris, la confiance de pas mal de gens qui voulaient soit vendre, soit louer leur maison, pourquoi pas des touristes français, évidemment. Et là, quelques temps avant ce drame, il était sur le point d'avoir, si j'ose dire, pignon sur rue. Il était sur le point d'ouvrir une agence immobilière qui n'était pas que sur Internet. Quoi.
Oui, il avait trouvé un local justement pour ouvrir son agence immobilière, avoir son bureau. Et c'était un peu l'aboutissement de ce qu'il désirait.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui se donnait à 300% pour ses clients. Et c'est pour ça qu'il était très droit, qu'il était... travailleur, bosseur, voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aimaient passer par lui, parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui était droit, qui avait des principes, et ils n'étaient pas déçus. Donc, effectivement, c'est son affaire marchait de mieux en mieux. Quoi.
Et il avait rencontré une jeune Thaïlandaise qui était devenue son amie et sa collaboratrice, si j'ai bien compris.
Oui. Elle s'était associée dans cette agence.
Oui.
C'est elle qui continue aujourd'hui, d'ailleurs, le travail de mon frère. Et voilà.
Et donc, on a le tableau de ce garçon, évidemment, qui reste en lien avec sa famille, avec vous, avec vos sœurs, avec vos parents. Et globalement, est-ce qu'il s'inquiète de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il se sentait...
Il en avait un peu parlé à mon père, oui, qu'il avait apparemment des menaces. Il avait également parlé de Cyril Larignon. Il y a eu une altercation en novembre-décembre 2015, où apparemment il y a eu une bagarre. Et mon frère ne voulait pas inquiéter les gens qu'il aimait, et c'est vrai qu'il se confiait très peu.
Donc il restait très discret sur les raisons de...
À chaque fois, il disait, ça c'est mon problème. Enfin voilà, il voulait pas nous inquiéter. Et c'est vrai que, bon, à moi, il m'en avait pas parlé directement, parce que je pense que voilà, il ne voulait pas m'inquiéter. Il en avait vaguement parlé à mon père. Et lorsque mon père a voulu rentrer dans les détails, il lui a dit « ça, c'est mon problème ».
Voilà. Mais il ne se sentait pas spécialement menacé au moment début décembre dernier, tout le monde tombe des nues, quoi, en fait, hein, c'est ça.
Complètement.
Alors, avec Maître Molina, on va revenir sur ce que vous avez pu reconstituer ensemble des faits de cette fameuse soirée. Ça se passe dans un restaurant français, ça s'appelle le Jardin
des Envies.
Mais il y a là, présent dans ce restaurant, le propriétaire des lieux, donc un Français, on l'a dit, de toute façon, sont tous des Français, et le propriétaire aussi d'un bar à vin qui est situé dans un autre village, à la Bonne Franquette, je crois.
C'est pas dans un autre village, c'est vraiment à côté.
Ah, c'est à côté, pardon.
Oui, c'est complètement à côté, c'est juste derrière, en fait. Ouais. C'est une rue qui fait un U.
Ouais.
Et donc, d'un côté, vous avez la Bonne Franquette, et de l'autre côté, vous avez le Jardin des Envies. Donc, c'est vraiment à proximité.
Alors, Maître, on sait pourquoi il était là ce soir-là, Laurent Delacherie ?
Il est très difficile à ce stade de répondre avec une totale certitude à la question que vous posez, et qui, à n'en pas douter, se trouvera ou se trouve d'ores et déjà au cœur des
Bien
investigations
sûr.
Qui ont, même superficiellement sans doute, été d'ores et déjà diligentées en Thaïlande.
Mmh.
Ce que nous savons, avec une relative certitude néanmoins, c'est que le drame qui va se produire ce soir-là se noue en deux étapes. Une première étape, vous l'avez rappelé, où Laurent Delacherie se retrouve en présence de trois autres ressortissants français dans ce restaurant. Il semble que, je le dis avec prudence, mais il semble qu'une première altercation se produise. Que Georges Michel quitte le lieu pour en revenir quelques minutes plus tard, muni d'une arme dont il va dramatiquement se servir en faisant feu à pas moins de 3 reprises sur la personne de Laurent Delacherie. Et c'est dans ces circonstances dramatiques que Laurent Delacherie va perdre la vie. Postérieurement, et dans un trait de temps qu'il n'est pas objectivement possible de figer avec une totale précision, ce que nous savons, d'après les différents témoignages que la famille en particulier, et Jessie elle-même, puisqu'elle s'est rendue en Thaïlande juste après les faits, a pu recueillir sur place, ces témoignages semblent indiquer que la dépouille mortelle de Laurent Delacherie aura été transportée dans une rivière se situant à quelques centaines de mètres du lieu de commission de ce crime, et que ce crime épouvantable va être maquillé, car il n'existe pas d'autre mot, en un accident, ce qui objectivement ne résiste absolument pas à l'analyse.
Oui, bien sûr. Et il faut dire que dès le jour même de la découverte du corps de Laurent, le 8 décembre, oui, je dis bien, Georges Michel va être intercepté par la police thaïlandaise, mais sur le continent. Il a pris un ferry. Et il est en fuite.
Il est en fuite, il est sur le point de prendre la fuite. Il n'a de toute évidence pas l'attitude d'un homme qui estime être en paix avec les faits qu'il aurait pu commettre et qu'il a, selon toute vraisemblance, commis. Reste à déterminer la qualification pénale qui aurait vocation à s'appliquer. Mais je rappelais, c'est un point qui me paraît essentiel, que pas moins de 3 coups de feu ont été tirés sur la personne de la victime. 3 coups de feu au crâne et au visage, ce qui, de toute évidence, exclut radicalement la thèse de l'accident.
Et cette thèse de l'accident, vous savez ce qu'a dit cet homme aux policiers thaïlandais ?
Non, nous n'en savons en réalité objectivement toujours rien. Ce qui est pour nous et pour la famille, bien évidemment, quelque chose d'absolument insupportable. Nous réclamons depuis maintenant plusieurs semaines, à corps et à cris, des autorités du parquet de Paris, la mobilisation que cette affaire et ce drame imposent. Nous n'avons en réalité aucun retour effectif à ce stade. Pas davantage d'ailleurs que du ministère des Affaires étrangères. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est plus que temps, dans ce contexte, qui est un contexte dans lequel Georges Michel n'a pas encore été définitivement jugé, que cette mobilisation s'introduise de manière vigoureuse.
Et donc, par la force des choses, j'imagine, on ne sait pas quel est le parcours de ces 3 Français impliqués dans ce meurtre ou dans cet assassinat, si le meurtre a été prémédité.
Il est très difficile, en effet, vous avez raison de le souligner, de reconstituer ou de resituer le parcours individuel et éventuellement collectif des 3 personnes impliquées au sens juridique et judiciaire du terme dans ce qui ressemble de toute évidence à un assassinat.
Voilà donc la situation actuellement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'une de ces trois personnes qui était accusée de complicité ou de recel de cadavre a été libérée après avoir été condamnée, une condamnation pratiquement qu'on pourrait appeler pratiquement symbolique, 3 mois de prison pour des faits quand même qui sont combien on risque avec la justice française pour recel de cadavre ou non dénonciation de crime,
plusieurs années de prison, sans parler naturellement de l'infraction principale d'assassinat qui fait encourir à ses auteurs la perpétuité.
Voilà, et donc il resterait en prison le présumé auteur des faits, Georges Michel, et l'un des deux autres complices, alors qui n'est pas, lui, propriétaire de restaurant. Vous ne savez rien de particulier sur le troisième.
C'est quelqu'un qui était en défaut de visa depuis plus de 6 mois, apparemment. Il n'avait pas de visa depuis plus de 6 mois, donc il était...
Ah, d'accord, donc il était dans une situation...
Donc il a d'ailleurs pris 3 mois pour mon frère, et 4 mois pour le défaut de visa.
Voilà, donc ce qu'on pouvait vous apporter. On va faire une pause tout de suite, bien sûr, et ensuite on va parler dans quelques minutes avec Bruno Philippe, donc qui est journaliste au Monde et qui est le correspondant du Monde à Bangkok.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jessie Delacherie, sœur de Laurent Delacherie, cet agent immobilier français qui venait depuis 2 ans de fonder une agence immobilière sur une île extrêmement touristique donc de Thaïlande, et qui a été assassiné de 3 coups de feu en pleine tête au début du mois de décembre dernier, à la suite d'une altercation avec 3 autres Français, dont le propriétaire du restaurant dans lequel il dînait ce soir-là, et l'une des 2 autres personnes étant elle-même l'auteur, en tout cas des présumés des coups de feu, étant lui-même patron également d'un bar à vin français situé dans les environs de l'endroit où s'est produit le drame. Alors on va maintenant, on a fait le point avec Maître Molina et Jessie Delacherie sur les informations qu'ils ont pu recueillir. On va aller plus loin avec Bruno Philippe, qui est le journaliste correspondant du Monde à Bangkok, en Thaïlande. Bonjour Bruno Philippe.
Bonsoir,
oui, pour vous, parce qu'il y a le décalage horaire. Est-ce que vous pouvez tout simplement d'abord nous dire, il y a une importante communauté française qui vit en Thaïlande en ce moment, et c'est un pays qui continue à attirer beaucoup les Français, et pas que les retraités.
Absolument, il y a beaucoup de Français en Thaïlande, pas seulement à Koh Samui, mais aussi dans d'autres endroits de Thaïlande, à commencer par Bangkok. Alors les retraités, ils vont évidemment plutôt à la plage, c'est-à-dire donc plutôt Koh Samui, Phuket, oui. Pattaya, qui est une ville assez connue, pour le meilleur et pour le pire, près de Bangkok.
Eh oui.
Donc la Thaïlande a un effet d'attraction très important pour les Français. À Koh Samui, on parle de peut-être 3 à 4 000 Français. Il y a, vous venez de le dire, évidemment, la victime était française et travaillait sur place puisqu'elle était agente immobilier. Mm-hmm. Et donc, il y a donc des milliers de Français, il y a des dizaines de restaurants français, il y a toute une communauté française qui habite là-bas depuis des années. Le tourisme à Koh Samui a explosé réellement depuis, disons, une vingtaine d'années, et ça continue. Et puis, comme vous le disiez, il y a effectivement aussi les retraités qui arrivent en nombre de plus en plus important pour aller goûter aux joies du soleil en Thaïlande.
Voilà, donc ce qui explique qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui, restaurateurs ou agents immobiliers en l'occurrence, savent qu'ils vont trouver certainement à pouvoir développer, en tout cas, leur profession sur place. Ces Français, d'une manière générale, font parler d'eux en Thaïlande?
Écoutez, pas tellement, en fait. Disons que Koh Samui, c'est vrai que c'est un peu une petite France. Il y a encore, comme je le disais, il n'y a pas que le Koh Samui, mais c'est vrai que Koh Samui a particulièrement retenu l'intérêt des Français. Non, je ne dirais pas qu'ils font parler d'eux. En réalité, d'ailleurs, le jour où le crime a eu lieu, ou plutôt le lendemain, dans la presse thaïlandaise, on en a parlé, mais pas beaucoup. Les Thaïlandais, vous savez, ne s'intéressent pas tellement aux histoires de ceux qui ne les regardent pas.
D'accord.
Les Thaïlandais profitent du tourisme, c'est une manne. Hein. C'est quand même, l'année dernière, c'était 30 millions de touristes en Thaïlande, avec un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien. Ouais.
C'est peut-être la raison pour laquelle...
Il y a 40 000 Français qui sont venus, pardon.
Oui, je dis, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne parlent pas trop des affaires qui peuvent faire fuir le touriste.
Exactement. Les Thaïlandais n'ont absolument pas envie de faire de la publicité autour d'événements violents qui peuvent mettre en cause des étrangers. Ils ont besoin donc du tourisme. Mmh. C'est 10% du PNB, c'est quand même pas rien dans une économie qui va par ailleurs pas très bien.
Oui, bien sûr. On peut être étonné ici en France quand on dit que deux personnes qui étaient quand même, qui sont toujours, bien qu'elles aient été jugées, donc accusées de complicité dans une affaire de meurtre, puissent se retrouver condamnées à 3 mois de prison et pour l'un d'entre eux, de sortir de prison avec une caution qui paraît ridicule vue d'ici. C'est l'habitude, en Thaïlande ?
Oui, la loi Thaï prévoit à peu près, ce qui a été donné, 3 mois de prison pour complicité de crime, et maquillage de crime, comme il a été dit dans l'émission un petit peu avant. Oui. Pour un meurtre non prémédité, c'est au minimum de 3 ans. Sinon, après, ça va chercher entre 10 ans et éventuellement la peine de mort, qui existe toujours, mais qui n'est pratiquement jamais appliquée. Oui. Mais c'est vrai que les complicités, y compris que ce soit des Thaïlandais ou des étrangers, complicité de crime, ça ne va pas chercher loin du tout, effectivement. Après, bon, maintenant, il faut savoir si Georges Michel va faire un minimum de 3 ans de prison. On sait que les cautions peuvent être assez importantes. Hein. Il a proposé 800 000 bahts, donc 800 000 bahts, ça fait 20 000 euros de caution. Pour sortir, pour l'instant, ça n'a pas été accepté.
Mais il n'a pas été, vous nous confirmez qu'il n'a pas été jugé.
Ah, il n'a absolument pas été jugé. D'accord. Personne n'a été jugé, en fait, pour l'instant, en réalité. Enfin, ou plutôt, Cyril La Réunion, lui, est en instance de jugement. Il a donné une caution qui est de 3 000 euros, à peu près.
D'accord.
Il a fait une partie de sa peine. Et au mois de septembre, après la fin de la saison touristique, c'est comme ça qu'il a négocié la chose, il reviendra en prison pour purger la fin de sa peine. Donc effectivement, ils ont été jugés, mais pas Georges Michel.
D'accord. Et vous n'avez pas d'autres informations donc sur l'affaire, sur le mobile exact, sur les raisons qui font que cette dispute dramatique est éclatée?
Non, écoutez, j'ai vraiment pas d'autres détails que ce qui vient d'être dit par la sœur de Laurent de Lacherie et son avocat. On parle de dispute qui est autour d'un problème immobilier, du restaurant qui appartenait à Georges Michel. Donc, enfin, j'en trouverai pas dans les détails parce que je vous avoue que j'ai des informations totalement contradictoires, donc je ne me permettrai pas de les commenter pour l'instant.
Bien sûr, donc on peut être dans le domaine de la rumeur, évidemment, et Dieu sait si les rumeurs vont vite sur Internet. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment en tout cas, Bruno Philippe, d'avoir fait le point pour nous avoir confirmé effectivement qu'il y a quand même une communauté française très importante et forcément, puisqu'il y a de l'argent à gagner, donc beaucoup de gens qui ont envie de s'installer là-bas. Merci beaucoup. On fait une pause tout de suite et puis on va retrouver Maître Emmanuel Molina et Jessie de Lacherie, mais on va parler maintenant droit. Et vous allez nous expliquer pourquoi cet appel aux autorités françaises devrait recevoir en tout cas un accueil favorable de la France.
L'heure du crime sur RTL.
Nous sommes toujours avec Jessie de Lacherie, la sœur de Laurent de Lacherie, donc assassinée il y a 3 mois, au début du mois de décembre 2016, sur une île très touristique donc du golfe de Thaïlande. Et Maître Emmanuel Molina, du barreau de Marseille, vous habitez dans cette région avec votre famille, et Maître Molina défend les intérêts de la famille de Laurent de Lacherie. Et on l'a dit au début de l'émission, très rapidement, maintenant je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de parler de cette demande que vous faites officiellement aux autorités françaises qui n'ont pas encore bougé devant ce drame. Maître Molina, pour vous, il est clair que la France ne peut pas dire « nous sommes incompétents ».
Alors, non seulement la France ne peut pas le dire, mais la France ne devrait pas le dire, en tout cas au moment où il est encore temps de faire ce qui n'a pas été fait.
D'accord.
Et ce, sans renoncer à l'application, mécanique et juste. Au fond, d'un dispositif légal qui existe dans notre code pénal et qui permet précisément, lorsqu'un Français est victime à l'étranger d'un certain type d'infraction, c'est tout particulièrement vrai pour les crimes, que la justice pénale française juge les auteurs de ces faits.
Mais est-ce qu'on peut le lui refuser ? Est-ce que le pays étranger dans lequel s'est déroulé ce drame peut refuser de collaborer avec la justice française?
Je dirais qu'il peut d'autant plus le refuser qu'on ne le lui demande pas. Et c'est précisément...
Il faut commencer par là, d'accord.
Et c'est précisément la difficulté principale à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui confrontés. Rendez-vous compte qu'il y a 3 semaines de cela, à peine, et alors que la mort de Laurent de la Chérie remontait déjà à plus d'un mois. Les premiers contacts qui ont été établis par mes soins auprès du parquet de Paris et de l'OCVRP de Nanterre m'ont informé qu'en réalité, à cette date-là au moins, aucune demande d'entraide pénale internationale n'avait été formulée par la France.
Donc la France aurait pu se saisir d'elle-même, pas besoin d'attendre que...
La France aurait pu, et je le redis, la France aurait dû, par application des principes juridiques qui sont les
d'accord.
nôtres. Et il y a là donc quelque chose qui, du point de vue de l'administration de la justice, comme l'on dit, mais plus profondément, et pour utiliser des mots plus simples encore, du point de vue du besoin inextinguible, au fond, de justice des victimes, et de cette famille en particulier, il y avait nécessité, il y a toujours nécessité, de mettre en mouvement ce dispositif juridique, qui est consacré, je ne veux pas être inutilement technique, mais par l'article 113.7 du Code pénal, qui donne compétence à la juridiction pénale française. C'est ce que nous réclamons, et c'est ce que nous ne cesserons de réclamer, tant que, au moins... les auteurs de ces faits n'auront pas été jugés définitivement. Je rappelle, car c'est une difficulté technique qui peut nous être éventuellement opposée, et nous ne la méconnaissons pas, que tant que ces faits n'ont pas été définitivement jugés, et s'agissant de Georges Michel, votre précédent intervenant rappelait, là encore, ce que je vous disais, ce que la famille de la Chérie vous disait elle-même, c'est-à-dire qu'il n'était pas définitivement jugé, il est encore temps de faire ce qui aurait dû être fait.
D'accord. Alors, maintenant, comment on voit les choses ? D'abord, vous avez donc déposé officiellement une plainte, ça s'appelle comme ça ?
Absolument. La famille de la Chérie, avant même mon intervention, a d'abord déposé plainte.
D'accord.
Et on peut la comprendre immédiatement après l'annonce des faits, lorsque le père de Jesse a eu connaissance de ce drame épouvantable. Puis la famille m'a missionné, dans le cadre d'assistance défense pénale français de l'étranger dont je m'occupe, et nous avons alors régularisé d'une manière... plus substantiellement technique, si vous me permettez, une plainte qui a officiellement saisi le parquet de Paris, une plainte d'une quarantaine de pages, étayée techniquement et juridiquement, qui comporte l'exposé des moyens juridiques qui permettent raisonnablement et à bon droit d'engager les poursuites que nous réclamons.
Alors, que peut faire concrètement la France ? Ça passe par le ministère des Affaires étrangères ? Comment ça devrait se passer ?
Alors, la France doit d'abord, en premier lieu, formuler une demande d'entraide pénale internationale.
D'accord.
La France peut également solliciter la mise en mouvement d'un dispositif extraditionnel. La difficulté.
Pour faire venir en France, donc, absolument, les personnes concernées. Mais pardonnez-moi, vous aurez le temps d'aller au bout de vos idées. Excusez-moi de vous couper comme ça, mais je me mets à la place de ceux qui écoutent. On se dit, il y a eu un meurtre. Il y a 3 personnes impliquées. Bon, pour la justice thaïlandaise, il y a un auteur principal et 2 complices. Bon. Mais peut-être que des enquêteurs français auraient un autre point de vue sur la chose. Si c'est un assassinat avec 2 complices d'assassinat, ils risquent, en tout cas en France, la même peine, c'est-à-dire une peine très très lourde, de prison à perpétuité. Est-ce que, concrètement, à la suite d'une démarche comme la vôtre, la France peut envoyer des enquêteurs policiers français pour enquêter ?
Bien sûr qu'elle le
peut. Avec la police thaïlandaise, bien sûr.
Bien sûr qu'elle le peut. Je redis que, bien sûr qu'elle le devrait. C'est ce que nous réclamons. Et ce que nous réclamons, finalement, c'est une chose assez simple que vous évoquez de manière extrêmement claire et parfaitement judicieuse. Nous réclamons tout simplement la mise en mouvement d'un dispositif d'enquête digne de ce nom, qui permette à la famille de déterminer précisément ce qui a pu se passer, et dans un deuxième mouvement, à la justice, de s'appliquer à la mesure de la gravité des faits qui ont été commis, tels qu'ils le seront, en fonction des qualifications juridiques qui mériteront d'être retenues, ni plus ni moins, mais à la mesure objective de ce terrible drame.
Et si on imagine, ce que personne ne souhaite évidemment, que la justice thaïlandaise aille à son terme et que le procès de cet homme ait lieu, il se trouve, et c'est l'argument que vous développez, mais on va en parler dans quelques instants, que ce ne serait pas un obstacle à une intervention de la France, bien qu'on dise toujours, ah oui, mais on ne peut pas juger la même personne pour les mêmes faits, deux fois, une fois dans un pays étranger, une fois en France. Ben, en fait, il s'agit aussi de voir de quoi et sur quoi la personne a été jugée. On va vous donner toutes les explications dans un tout petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
Et on revient à l'assassinat de cet agent immobilier français, Laurent Delacherie, au début du mois de décembre en Thaïlande, sur une île très courue par les touristes et sur laquelle résident également de nombreux Français, dont pas mal de retraités. On est avec Jessie Delacherie, sa sœur, et maître Emmanuel Molina, qui est l'avocat de la famille, qui s'adresse aux autorités françaises maintenant pour dire, en gros, bougez-vous, et puis il faut faire quelque chose. Il y a trois mois que ces faits ont eu lieu, et la France n'a pas bougé. Et évidemment, votre argument, maître Molina, c'est de dire, non seulement la France n'a pas bougé, mais elle devrait l'avoir fait déjà, et vous expliquer pourquoi. Alors, on a dit à l'instant que souvent, on oppose toujours cette règle de droit, en latin j'ai oublié la formule, mais vous allez nous la rappeler dans un instant, on ne peut pas juger deux fois la même personne pour les mêmes faits. Et vous dites, dans l'argument de votre plainte auprès des autorités françaises, même cette règle de droit n'est pas un obstacle à demander l'extradition de ces personnes.
Alors, effectivement, l'exigence de justice, elle est transfrontalière, bien évidemment, et le besoin de vérité est inextinguible. Comment le législateur français, au fond, a transcrit cette exigence de justice dans notre arsenal pénal ? Il a consacré le principe qu'on rappelait tout à l'heure, celui selon lequel, lorsqu'une victime française est la victime de Français, même lorsque les faits sont commis à l'étranger, le droit pénal français peut s'appliquer. Il est très fréquemment, effectivement, et c'est une difficulté que nous rencontrons régulièrement dans ce type de situation, opposé aux familles de victimes, qu'un fait ait pu être jugé à l'étranger et ne puisse donc recevoir jugement une seconde fois en France. La vérité oblige à dire que cette règle existe dans notre dispositif pénal et qu'elle a donc vocation à s'appliquer par principe au moins. Mais cette situation et cette règle de droit ne peut pas néanmoins constituer le support d'une forme d'esprit de facilité qui consisterait à dire au fond, comme c'est un peu le cas, me semble-t-il, en l'espèce, qu'il n'y a rien à faire et que plus rien ne peut être fait. D'accord. Je veux tout de même rappeler, parce que ça me paraît essentiel au cas d'espèce, qu'au moment où nous parlons, et c'est la troisième fois que je le dis, ce sera la dernière, mais c'est essentiel, qu'au moment où nous parlons, l'auteur principal de ce crime, car c'en est un, n'a pas été jugé définitivement en Thaïlande, et que par conséquent, au moment où nous parlons, cette règle n'a pas vocation à s'appliquer. J'irai même plus loin, dans l'hypothèse que nous ne souhaitons pas, dans laquelle nous pourrions nous retrouver si cet esprit de facilité, que je n'ose qualifier d'indolence, devait persister. Si, effectivement, dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous devions regretter, peut-être à votre micro, une nouvelle fois, que la France n'ait pas pris ses responsabilités dans cette affaire, alors il s'agirait de savoir si, effectivement, malgré cela, ces auteurs pourraient être jugés en France. Et la France aurait, à ce moment-là, à examiner très concrètement le processus de jugement qui s'est engagé en Thaïlande pour vérifier si un certain nombre de règles, je ne vais pas être inutilement technique, été suffisamment prise en considération, en particulier s'agissant du droit des victimes et du principe de double incrimination, pour envisager effectivement que un processus de jugement puisse être repris en France, ou que, à tout le moins, tout ou partie de la peine qui ait pu être prononcée en Thaïlande puisse être exécutée en France, dans le cadre de conventions qui existent néanmoins entre la France et la Thaïlande.
D'accord. Mais pour ça, après, il y a des tas de problèmes techniques qui se posent. Par exemple, pour que un procureur de la République ou un juge d'instruction puisse justement faire son travail, encore faut-il qu'il ait la copie des interrogatoires traduit en français, parce que ça complique les choses, évidemment, quand ça se passe dans une autre langue. Donc ça, c'est également cela que vous voulez obtenir, c'est-à-dire avoir accès aussi à ce dossier, quoi, en fait.
Nous attendons, j'ose dire que nous exigeons, que la famille exige à toute force qu'effectivement ces informations lui soient communiquées, dans le cadre d'un processus qui existe sur le plan juridique. Il existe une convention d'entraide judiciaire du 11 septembre 1997, en l'occurrence, entre la France et la Thaïlande, qui permet précisément l'échange d'informations et la coopération judiciaire. C'est ce que la France doit rapidement mettre en œuvre pour que les droits de la victime puissent être suffisamment pris en considération et que justice soit rendue.
Vous n'avez rien à ajouter, maître ?
Je souhaiterais simplement rajouter que nous attendons et que la famille attend la prise en considération de cette situation qui est insupportable. Et que, au-delà des aspects juridiques ou judiciaires dont nous avons évidemment longuement parlé, il y ait également une mobilisation du ministère des Affaires étrangères. Nous souhaiterions, et la famille dont je me fais le porte-parole en cet instant, souhaiterait qu'une réunion puisse être organisée au sein du ministère des Affaires étrangères pour qu'elle puisse être informée alors qu'elle ne l'est pas. Sur l'évolution de cette situation en Thaïlande. Il y a là, de surcroît, un facteur aggravant d'une certaine manière de l'indolence que je regrettais de devoir déplorer.
Oui, parce que Jessie, vous n'avez eu aucun contact avec les autorités françaises depuis que vous avez appris ce drame ?
Non, pratiquement pas, non.
Ouais. Et vous espérez être reçu, donc,
tout à fait.
Ce que vient de dire Maître Molina.
Ouais.
Alors, ça a été terrible pour vous, je suppose. Je ne sais pas si vous connaissiez la Thaïlande, mais vous avez dû y aller après la mort de votre frère. Mmh. Vous avez rencontré ses proches, cette amie dont on parlait tout à l'heure, thaïlandaise, qui travaillait avec lui.
Tout à fait, oui. J'ai passé une dizaine de jours donc, sur Koh Samui et Bangkok. Mmh. Donc, j'ai été logée par un ami de mon frère. Et donc, j'ai côtoyé donc, tous ses amis francophones. Et ainsi que sa compagne avec laquelle j'ai été hébergée.
Et eux-mêmes ne s'attendaient pas à un drame. Enfin, ils ne s'étaient pas confiés à eux, ils n'avaient pas parlé de menaces. Enfin,
mon frère se confiait très, très peu.
Ouais.
Donc non, tout le monde a été abasourdi. Et voilà, c'est vraiment...
Donc le mobile réel demeure un mystère, c'est-à-dire que mais vous n'avez pas accès non plus.
Il y a plusieurs rumeurs.
C'est quoi les rumeurs d'un
mot ? Une rumeur qui dit qu'apparemment c'était pour le restaurant de
le fameux
de
restaurant
George,
à la bonne franquette. Bar à vin, oui.
Voilà, c'est ça. Une autre rumeur qui dit qu'apparemment que mon frère était allé dans ce restaurant pour réclamer une commission suite à la vente du restaurant de Cyril.
Oui.
On n'arrive pas à savoir réellement pourquoi mon frère est allé ce soir-là dans ce restaurant, pourquoi cette dispute a éclaté.
Et puis c'est vrai aussi que comme il réussissait sa nouvelle vie, en fait, hein, puisqu'il n'était pas agent immobilier avant d'aller en Thaïlande, là il s'apprêtait peut-être à avoir son agence avec pignon sur rue, ça peut créer des jalousies également. Quoi.
Oui.
Voilà. Alors ça ne peut être que des considérations et des hypothèses, hein, et que des rumeurs pour l'instant. Pour en savoir plus et pour en avoir vraiment le cœur net, il faut vraiment que les autorités françaises vous entendent.
Exactement,
hein, et puis, qu'on puisse avancer. Je vous remercie beaucoup.
Merci
infiniment, et vous avez eu bien raison de nous envoyer ce message sur rtl.fr. Merci. Merci, Maître Molina.
Merci à vous.
Et vous nous tiendrez au courant, parce qu'on aime bien parler aussi des bonnes nouvelles. Hein, donc, si votre appel aux autorités françaises est entendu, on le fera savoir à tout le monde. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand tout de suite après le flash. RTL.